de ces écoles qui ont été inondées et ça va coûter des millions et des millions, n'est-ce pas, pour rénover tout ça. On n'a pas eu vent de ces écoles-là. Nous, dans la population, on a connu, qu'on soit ici ou ailleurs, là, à Montréal ou ailleurs, on a connu des situations. Exemple, moi-même, celui qui vous parle, j'ai été touché. Mais pour les écoles, on dirait que, bon, c'est... Ça n'a pas été touché. Et pourtant, la plupart de ces écoles ont été lourdement touchées.
Oui, effectivement, lourdement touchées. Puis je dois vous dire, quand je dis lourdement touchées, vous savez, l'impact du changement climatique, là, présentement, déborde des situations là, extrêmes, entre autres l'inondation de ces écoles-là, des coûts faramineux. Trop souvent, la problématique d'entretien de nos édifices pour faire face à ce genre de situation-là, et trop souvent, on se dit, bon, ça arrive une fois aux 15 ans, aux 20 ans ou aux 30 ans, mais on ne se protège pas davantage en préparant, entre autres, nos écoles par rapport à ces défis climatiques-là. L'autre affaire, c'est que on a des écoles qui sont près des rivières, près des cours d'eau. Les systèmes d'aqueduc débordent. Quand il y a de fortes pluies, on le sait, on a de nombreuses personnes qui ont eu des inondations dans leur sous-sol. Donc, ça arrive dans les écoles. Bien là, présentement, je trouve ça déplorable, effectivement.
Alors, M. Pronovo, il y a une théorie d'habitat non loin ou dans une zone inondable. La question de la zone inondable change de définition radicalement avec cette situation-là. Ça veut dire des intempéries à cause des changements climatiques.
Effectivement, et... On se doit de prendre des mesures de protection, hein, des mesures pour protéger, oui, nos édifices publics, mais aussi protéger la sécurité des enfants, des adolescents, des gens qui y travaillent, des parents, parce que quand il arrive une situation qui déborde de cette façon-là, ça crée une instabilité, ça crée une dangerosité et ça crée aussi de l'instabilité dans les familles. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est que depuis des années, on n'investit plus dans la rénovation de nos écoles. On bâtit quelques écoles neuves au Québec. On fait de belles conférences de presse et pour nous donner fière allure. Mais dans le fond, notre parc immobilier, il est vétuste, il est vieillissant. On doit s'en occuper. Et nous, je vais vous dire, M. Pierre, ça doit faire au moins 15 ans, 20 ans qu'on en parle, qu'il faut investir pour s'assurer une école, des écoles saines et sécuritaires dans tous les points de vue. Et malheureusement, on a eu une coupe à l'automne, au début de l'automne. On nous a annoncé 400 millions de coupures. 400 millions sur l'entretien de nos écoles, c'est énormément d'argent. Et ça, c'est une problématique majeure. Des mauvaises décisions.
Oui, de mauvaises décisions. Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas, en termes de protection de ces bâtiments-là, qu'il y ait un peu plus de continuité dans un programme à cet effet qui permettrait effectivement, parce que le ministre de l'Éducation, qu'on le veuille ou non, là, il est là peut-être pour un mandat de 4 ans, s'il est chanceux, 6 ans, il n'est pas là éternellement, et même le gouvernement n'est pas là éternellement. Mais celui, exemple, vous et les enseignants et bon d'autres enfants qui viennent à l'école, mais ils sont là pour vivre avec ces bâtiments-là pendant plusieurs années. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir ce programme qui permettrait de voir, d'avoir donc un projet à long terme pour protéger ces habitations, ces milieux de vie, je devrais dire, n'est-ce pas?
Entièrement d'accord avec vous, M. Pierre. Je vais vous le dire là, en partant, moi je pense que, vous savez, quand on investit dans notre propre maison, c'est la même chose pour nos édifices publics. Il faut investir régulièrement avec une régularité et avec des argents réguliers pour nous permettre de passer à travers tout le parc immobilier qu'on a au Québec. Et ça peut pas se... Malheureusement, ça peut pas se régler en une année, dire on sauve 150 écoles. C'est impossible. Par contre, si depuis 30 ans, 50 ans, les écoles, la plupart, ont été construites dans les années 60-70. Donc, si on avait un peu investi, tu sais, à tous les ans pour parer ce genre de situation-là, mais on a de la difficulté au Québec à avoir une vision d'avenir. Très d'accord avec ce que vous avez dit. Il faudrait absolument qu'on ait un protocole obligatoire d'investissement dans le parc immobilier de nos écoles pour s'assurer que, effectivement, quand il y a des changements de gouvernement, que ce travail-là se continue et que ce soit au-delà d'une vision politique, mais d'une obligation politique pour nos enfants, pour nos gens qui y travaillent, pour nos parents, parce que vous l'avez dit, c'est un milieu de vie, l'école. C'est important pour les gens qui sont dedans, là.
Maintenant, c'est de savoir, oui, cette sortie médiatique est extrêmement intéressante, mais savoir l'effet, savoir de l'effet sur l'ego du gouvernement, du ministre, des fois on s'en fout un petit peu, sachant très bien qu'une autre nouvelle va détruire cette nouvelle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, effectivement, pour garder l'esprit? Parce que quand on voit les bâtiments debout, et puis nous, du public, on passe en avant, on voit, c'est la belle école Sainte-Rose, c'est la belle école, bon, et puis l'école est là. Et pourtant, l'école est en difficulté. Le bâtiment est en difficulté et on ne le voit pas. Comment faire pour réveiller les gens? De quartier surtout, parce que les écoles appartiennent au quartier, réveiller ces gens-là sur l'importance de garder les écoles vraiment en bonne forme, que l'école puisse nous permettre d'instruire nos enfants le plus longtemps, nos petits-enfants le plus longtemps possible.
Effectivement, M. Pierre, quand on regarde, on prend Montréal, Ils ont des écoles où l'enveloppe extérieure, souvent, est très belle parce qu'il y a une architecture. Ouais. C'est attirant. Par contre, il y a quelques enveloppes extérieures qui devraient être travaillées parce qu'on voit que des fois, il y a un morceau de mur qui est tombé. Bon, il y a de la maçonnerie, etc.
Mais quand on voit ça, ça veut dire à l'intérieur, c'est encore...
Exactement. Exactement. Ah. Quand vous dites ça, là... Moi, là, les meilleurs alliés là, pour nous aider dans ce travail-là, là, c'est les parents qui fréquentent l'école. Ouais. Quand les parents vont chercher leur enfant, quand les parents vont rencontrer le personnel de soutien, les enseignants, de remarquer qu'est-ce qui ne va pas. On aurait besoin de ces yeux-là de parents, parce que nous, comme personnel qui entretenons les édifices, on a un problème. Parce qu'on n'a pas assez de gens. On n'engage pas assez de gens pour faire l'entretien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met un diachylon sur la plaie en se disant, ça va arrêter de saigner à un moment donné. Mais des fois, ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut creuser. Ça nous prend des gens qui ont de l'expérience et de l'expertise. Moi, je vous le dis, M. Pierre, nos meilleurs alliés, c'est les parents. Il faut qu'ils le disent et le dénoncent. Nous aussi, on le fait. Mais souhaitons-nous des écoles sincèrement sécuritaires et saines et que l'environnement soit excellent pour nos enfants, nos étudiants, nos jeunes adultes et tous ceux qui y travaillent. Là. C'est ça qui est le principal.
Éric Ponovo, président de la FPSS, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, M. Ponovo.
Au plaisir d'une prochaine fois, M. Pierre. Bonjour.
Merci, bonjour. Au revoir. Voilà, il est...